France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture poursuit sa collection de masterclass avec des personnalités majeures de la création culturelle. Une série d'entretiens exceptionnels menés par les producteurs de France Culture pour entrer dans l'atelier de fabrication intime des artistes. Vendredi 22 mars au Théâtre de l'Alliance Française, retrouvez à 19h le cinéaste Guillaume Niclou avec Zoé Sfez et à 20h30 Charlie Licouture avec Géraldine Mosna-Savoie. Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, Paris 6e. Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr. Plus d'informations, franceculture.fr. France Culture, 6h-7h, les petits matins. Tout de suite, les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Alexandre Benalla a une nouvelle fois été mis en examen dans deux affaires distinctes. Pour port et détention non autorisée d'armes de catégorie B, dans l'enquête sur un selfie qui avait été pris avec une arme à la main lors de la campagne présidentielle de 2017 par Alexandre Benalla. Et puis les chefs de violence volontaire en réunion et immixtion dans l'exercice d'une fonction publique ont été retenus également, concernant cette fois les incidents du 1er mai dernier dans le Jardin des Plantes à Paris. Ce matin, par ailleurs, le bureau du Sénat doit se prononcer sur l'éventuel renvoi devant la justice de plusieurs protagonistes auditionnés dans cette affaire Benalla, justement. La mission antiterroriste militaire Sentinelle sera mobilisée de manière renforcée ce samedi. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, l'annonçait hier dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. La mission Sentinelle devra protéger des bâtiments officiels et autres points fixes. Voilà ce que dit l'exécutif. Depuis le début du mouvement, la mobilisation des Gilets jaunes a causé 200 millions d'euros de dégradation. Voilà ce que disait hier le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Et il a été question de cette mobilisation et de ses racines hier soir lors d'un débat organisé sur BFM TV avec les représentants des principaux partis politiques. Entre fiscalité et consentement à l'impôt, la gauche a fustigé la réduction des droits des plus faibles quand l'extrême droite a estimé que les Français étaient méprisés par le pouvoir actuel. Nous ne quitterons pas l'Union européenne le 29 mars prochain, c'est-à-dire dans 8 jours. Theresa May l'affirmait hier soir depuis Downing Street à Londres. Un peu plus tôt dans la journée, elle avait demandé à Bruxelles un report du Brexit, un report de 3 mois jusqu'au 30 juin. Elle appelle solennellement les députés britanniques à soutenir l'accord de divorce négocié avec les 27 autres pays membres. Ce vote des députés britanniques est d'ailleurs la condition posée par les Européens pour un éventuel report au-delà du 29 mars. Et puis la droite européenne, comprenez le PPE, le Parti Populaire Européen, a décidé hier de suspendre temporairement le Fidesz, le parti du dirigeant hongrois populiste Viktor Orban. Une décision prise à une très large majorité, 190 voix contre 3 seulement. Une suspension temporaire dont on ne connaît pas pour le moment le délai.
France Culture présente le Festival international de films de femmes de Créteil. Le festival réunit des réalisatrices qui défendent toutes avec talent le regard des femmes sur leur société. En compétition ou dans le grand mixage, elles nous donnent à voir, à entendre, à partager. Et pour cette 41e édition, le festival a pour invité d'honneur la cinéaste Eusanne Palsy qui donnera une masterclass le samedi 23 mars à 15h30 à la Maison des Arts de Créteil. Festival international de films de femmes du 22 au 30 mars à la Maison des Arts de Créteil. Un partenariat France Culture.
Il est 6h03 en ce 21 mars, vous écoutez France Culture et Toufik Hakem est à vos côtés pour une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Ce matin, le Réveil culturel reçoit Cléa Vincent, qui sort son deuxième album, qui a pour titre « Nuit sans sommeil ». Portrait interview d'une chanteuse très représentative de ce qu'on appelle la nouvelle pop française. Le Réveil culturel, c'est tous les matins tôt à la radio, ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast, ou l'écoute en ligne disponible, entre autres, sur franceculture.fr. Émission préparée avec la complicité de Corinne Amard, Maëlle Ray, Vincent Abouchard à la réalisation, et Mathieu Tourin à la prise de son.
Le Réveil culturel. Jeudi, musique.
Oh,
Bonjour Cléa Vincent.
Bonjour, enchantée d'être là.
Alors vous êtes tout à la fois auteur-compositeur, vous jouez du clavier. Je dis auteur-compositeur puisque vous composez les musiques et vous écrivez vos paroles avec la collaboration de Raphaël Léger là, du groupe Tahiti 80 sur cet album. Mais vous vous produisez aussi sur scène. C'est quoi votre métier quand on vous demande Vous dites je suis chanteuse, je suis auteur-interprète, je suis musicienne, je suis...
Bah, c'est ça, c'est un peu à rallonge, hein. Ça fait auteur, compositeur, interprète. Effectivement, ça pourrait être interprète, auteur, voilà, peu importe l'ordre, mais je ne sais pas pourquoi il y a une convention, on dit souvent ça dans cet ordre-là, auteur, compositeur, interprète.
Comment êtes-vous arrivée à la chanson ?
C'est venu dans un moment de vide à la vingtaine où j'ai eu du temps, une année demi-sabbatique, et ce temps m'a donné l'envie d'écrire de la musique. Je faisais déjà du piano et tout ça, mais disons que la chose à laquelle je me suis raccrochée pendant cette période, ça a été l'écriture.
De la musique et des paroles ?
Et des paroles, oui. Les deux. Chansons. Un format chanson et tout de suite un format pop. Je me suis même pas posé la question, c'est devenu très très naturellement l'écriture de chansons pop, un peu romantique. Donc il y avait quand même il y avait de l'amour derrière quand même.
On vient d'écouter Nuit sans sommeil, c'est le premier titre de ce deuxième album. C'est aussi le titre de l'album, Cléa Vincent. Et quand on écoute la chanson... Ah bah on retient tout de suite et on danse avec les réminiscences des années 80. Et si c'était cela la définition de la nouvelle pop française portée par des gens nés comme vous d'ailleurs dans les années 80, c'est-à-dire une relecture mélancolique et électronique de ce que fut la pop des synthés de l'époque d'Élie et Jacquenot, tant dire de mon époque.
Oui, c'est effectivement Élie et Jacquenot, moi ça me parle beaucoup, Lio aussi. France Gall, effectivement, je pense que cette scène-là est très influencée par ces chanteurs-là.
Pourquoi vous vous êtes posé cette question, Cléa Vincent ?
Peut-être parce qu'on est né donc dans les années 80, donc petit bébé, on a dû entendre ça et ça a imprégné notre ADN musical, sans doute. Et voilà, puis on est une génération fleur bleue. On est fiers d'être romantique, français. On assume d'être fleur bleue, comme je disais. Mais voilà, il y a, je sais pas, un besoin d'exprimer des choses. Et ça se traduit comme ça, par des chansons.
Oui, mais sauf que dans cet album, c'est pas la fête. Hein, c'est la recherche de la fête. Mais il y a toujours un arrière-goût mélancolique.
Ouais, c'est vrai. Et moi, c'est ce qui me plaît dans les chansons françaises. Et peut-être c'est très français, ce truc du spleen. On est des amoureux de l'amour, on aime souffrir, on aime être amoureux, on aime en parler. On n'a pas de gêne à parler d'amour en France, à dire que ça fait mal, que ça fait du bien. J'ai l'impression, en tout cas, que ça nous caractérise pas mal dans ce pays.
Dans cet album, c'est le deuxième, hein, Nuit sans sommeil, Cléa Vincent. Il y a des morceaux qui ramènent peut-être des univers propres à eux, mais il y a une certaine continuité. Hein. On reste dans ce voyage, un voyage nocturne entre rêves et déambulations, insomniaques, tout ça sur une pop légère et épurée, mais très électro. Là, le côté électro est mis en avant. Vous venez de dire, Cléa Vincent, que vous avez fait du piano, donc vous auriez pu faire aussi un disque avec des instruments de musique.
Oui, tout à fait, mais j'avais hyper envie d'électro sur cet album. J'avais envie de danser et aussi... qui a un lien avec la French Touch des années 2000, Daft Punk, qui nous ont fait danser comme des fous. J'avais envie de faire danser sur ce disque, tout en racontant une histoire, un voyage jusqu'au bout de la nuit, où on passe par tous les états, et le fil conducteur, effectivement, c'est l'électronique. C'est le fameux 120 BPM qui donne envie de bouger.
Nuit sans sommeil, votre album sort sous le label de Midnight Special Records. Quelle place ont les propos, les paroles dans vos chansons, Cléa Vincent ? Parce que il y a des ballades romantiques, on parle d'amour, mais il y a aussi des chansons qu'on peut entendre comme des manifestes féministes. Je pense à Sexe d'un garçon, par exemple.
Quelle place elles ont ? Bah, c'est essentiel pour moi qu'il y ait un message derrière chaque chanson parce que je vais les chanter infiniment puisque dans une année, je vais faire jusqu'à 100 concerts. Donc il faut qu'à chaque fois que je chante, je croie à mon texte, je sois dedans, que ça me mette dans un état agréable ou de colère ou d'excitation. Donc c'est super important ce que je raconte quand je chante. C'est ça qui fait que je suis heureuse d'être sur scène.
Mais on ne peut pas parler de chansons à message ou si ?
À message, je sais pas, je dirais plus à émotion, à ressenti. Sexe d'un garçon, par exemple, vous en parliez il y a une seconde, c'est une chanson d'affirmation, c'est une chanson de girl power un peu, et de prise de position et d'encouragement aussi auprès des femmes à monter sur scène, à faire de la musique, à faire de la batterie, de la basse. C'est une chanson où j'ai envie de montrer l'exemple aux femmes de ma génération, ou peut-être les plus jeunes. Et donc, ouais, je suis fière de chanter cette chanson sur scène et de montrer que je suis courageuse et que...
Et voilà. Vous, Cléa Vincent, qui vous a donné l'exemple? Qui vous a aidé, justement, à monter sur scène? À quel moment vous avez décidé, justement, de faire de cette passion votre métier?
Bah, j'ai plusieurs modèles en tête. À l'époque où j'ai commencé à écrire, je me souviens qu'il y avait Pauline Croze, Adrienne Poli, qui étaient des chanteuses un peu rock'n'roll, qui étaient comme ça... très très chouette sur scène. Et puis je me suis assez vite entourée de musiciens, et les musiciens, ils aspirent qu'à une seule chose, c'est jouer en public, et je pense qu'ils m'ont influencée.
Mais vous avez rencontré où? Dans vos déambulations nocturnes, par exemple?
Exactement. Lorsque je sortais, j'ai rencontré à l'époque, donc c'était en 2010, j'ai rencontré pas mal de musiciens de pop indé. Il y avait The Yolks, il y avait Kim, c'est des gens qui sont toujours dans le paysage de la pop indépendante, et oui, ces musiciens de Paris la Nuit m'ont donné des forces.
Première scène, vous vous souvenez de la première fois où vous êtes produite sur scène ou chantée en public?
Bah justement, ce sont eux qui m'ont un peu encouragée. C'était à l'époque au Pop-In, au 115 rue Amelot. Il y avait des scènes ouvertes le dimanche soir. Et j'y suis allée plusieurs dimanches d'affilée jusqu'au jour où je me suis dit « Bon allez, moi aussi je vais y aller, je vais aller chanter les chansons que j'ai dans ma poche ». Et la première fois que je suis montée sur scène, je m'en souviens très 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 bien. C'était hyper fort, et puis il y avait des gens, des amis à moi dans la salle, et ils m'ont dit « Cléa, faut que tu continues ». Totalement insouciant, hein, parce que j'avais zéro expérience. Je suis montée comme ça, j'ai vraiment commencé de zéro, sans rien, avec juste un clavier et mes chansons. C'est vrai que j'étais complètement à poil, comme on dit.
Comment êtes-vous arrivé à enregistrer vos premiers OP, puis un album, et puis ce second album, Nuit sans sommeil, qui vient de sortir, Cléa Vincent?
Il y a eu beaucoup, beaucoup de rencontres, mais celle qui est la plus importante, c'est celle de Victor Pénichoux, qui dirige le label Midnight Special Records, qui un jour m'a vu en scène ouverte et m'a écrit sur Facebook, m'a proposé de jouer dans un festival qu'il organisait. On s'est rencontrés et il m'a proposé d'enregistrer une cassette, puis un EP, puis un deuxième EP, puis un album. Et au final, j'ai sorti 5 disques chez Midnight Special Records. Donc ce garçon, Victor Pénichoux, qui est à peine plus jeune que moi et qui démarrait comme moi de zéro un label, et on a pris main dans la main à lui produire des disques et moi en enregistrer. Et il a signé d'autres artistes depuis, mais ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment grandi ensemble et on a fait les choses à notre manière, sans aucun code, sans aucune règle. Et aujourd'hui on est plus professionnel qu'avant, mais je crois qu'on garde quand même vraiment notre originalité, notre touche personnelle.
Alors c'est quoi votre touche personnelle?
C'est qu'on n'a pas peur, de mettre les mains dans le cambouis, d'organiser des événements.
Vous faites tout vous-même?
On fait beaucoup beaucoup de choses nous-mêmes. Aujourd'hui on est une dizaine quand même autour du projet, mais c'est pas beaucoup en fait, 10 personnes par rapport à tout le travail. Donc là, un exemple, j'ai eu envie de faire une release party très originale pour Nuit sans sommeil.
Et Victor, une quoi party?
Une release party.
C'est-à-dire décodant.
Release comme signature, en fait, ça veut dire fêter la sortie d'un nouveau disque. Et pour fêter la sortie de ce nouvel album, j'ai eu envie d'organiser une nuit sans sommeil. Et j'ai dit à Victor, on va organiser une nuit sans sommeil et on va louer un car. Et je voulais un petit peu passer par toutes les étapes qu'on retrouve sur cet album. Donc on est parti d'ici, la maison de la radio, avec un bus rempli d'une cinquantaine de personnes. Et on est allé jusqu'à Étretat, dans la nuit de vendredi à samedi, et on a organisé plein d'étapes, des happenings, des concerts, des karaokés, des casinos, des choses comme ça.
Parce qu'il y avait autant de lieux qui vous attendaient pour...
Oui, tout à fait. Il y avait un restaurant routier, il y avait un casino, il y avait une maison qu'on avait louée à Étretat où on a fait un concert, plus la plage. Ça fait 4 étapes comme ça. On a emmené les gens, des journalistes, des artistes, jusqu'au bout de la nuit. Et ça, par exemple, Victor et moi, on n'a pas peur d'y aller. Ça nous a fait extrêmement... Ça nous a donné beaucoup le trac. On n'était pas sûr que ça se passerait bien. Il se trouve que ça s'est très, très bien passé. Il y a Mélissa Fulpin aussi, mon attachée presse, qui était dans le coup. Voilà, pour dire que je crois qu'on est, on est do it yourself et on n'a pas peur de...
Très peu de moyens, c'est effectivement plaisir. Un peu ce qui vous caractérise, parce que vous faites des clips minimalistes, mais qui ont un certain public, mais qui ont marqué, c'est-à-dire il y a eu cet impact, la simplicité, vous l'utilisez aussi comme force.
Oui, c'est devenu une identité. Mes premiers clips étaient faits en VHS avec des caméras amateurs. Et quelque part, oui, c'était une sorte de manque de moyens. Et en même temps, moi, ça me plaît bien aussi d'être dans ce grain d'image. J'aime bien la proximité aussi. Donc, ça me plaît d'être derrière une caméra très simple.
Et vous composez où vos chansons, vos musiques, Cléa Vincent?
Il y a deux endroits où j'adore écrire. Il y a le Gers. J'ai une maison familiale où je m'isole quand j'ai des idées de chansons pour les terminer. Je vais dans le Gers chez ma grand-mère.
Avec juste votre ordinateur, je suppose.
Exactement. Juste un ordinateur et un clavier MIDI. C'est là-bas que, disons que je finis les travaux. Et ensuite, je vais bien aussi la Bretagne.
Mais vous avez décidé depuis le début que vous allez utiliser que des logiciels, que c'était pas la peine de passer par des instruments de musique, alors que vous êtes musicienne.
Oui, ça c'est dans la phase de création. En revanche, en ce qui concerne l'enregistrement, on fait appel à des musiciens, notamment pour le premier album. Pour celui-là, en revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il est quand même très électronique. Et donc, il y a surtout Raphaël et moi qui avons joué l'essentiel des instruments.
Et puis, il y a Voyou aussi qui apparaît dans cet album. Qui est Voyou ?
Voyou, c'est un chanteur que j'adore, qui est sur le label Entreprise et qui mélange électro, musique brésilienne. C'est très singulier ce qu'il fait. Il vient du nord de la France et il est extrêmement touchant comme garçon. Et son live envoie bien sa danse. Je l'ai invité sans le connaître dans une soirée que j'ai organisée. J'avais peur de le rencontrer parce que j'aimais tellement sa musique. Je voulais ne pas être déçue par le personnage, enfin l'être humain. Et ça a été tout le contraire. Et depuis, on est amis. Et je lui ai proposé de... Bah justement, pas tant que ça. C'est plutôt quelqu'un de droit, d'honnête et surtout d'hyper chaleureux.
Cléa Vincent et Voyou, extrait de votre deuxième album, Nuit sans sommeil sur France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
J'ai claqué la porte d'entrée, ce qui met fin au débat. Le froid silence de la cage d'escalier, est-ce que je me casse ou pas?
T'en fais pas des coups, j'en ai déjà encaissé. C'est pas la première fois. Surtout ne t'inquiète pas pour ça. Au fond, c'est tout ce que j'attendais.
Plus de trench sur le sol. Plus de l'eau sur la mégapole.
Je conçois pas la vie sans toi. J'aimerais pas voir ce seul. Y'aurait mal.
Sûrement,
j'aurais perdu le résultat.
T'auras plus d'espace dans le lit.
Et je pourrais me refaire tout un tas d'amis.
Y'aura sûrement moins de tension dans l'air.
Mais il manque un truc et ça me désespère.
Plus de trench sur le sol.
Meldon, s'il fallait parler de ce titre, Cléa Vincent, titre enregistré avec Voyou et qui figure en bonne place d'ailleurs dans votre album Nuit sans sommeil, c'est parti d'où, de vos états d'âme, d'une envie d'avoir une voix masculine, en hommage à Élie et Jacquenot, on en a beaucoup parlé, de vos références, incroyables références, les années 80, c'est-à-dire les années où vous êtes nés.
Oui, c'est ce morceau. Raconte une dispute de couple, peut-être qui aurait lieu entre Élie et Jacquenot de temps à autre, on ne sait pas. Mais ce moment de dispute assez infernal, par lequel on passe à peu près tous, enfin, Et donc, ça remue. Et j'ai eu hyper envie d'exprimer ce qu'on ressentait quand on se disputait.
Qu'est-ce que vous faisiez avant ou parallèlement à vos premiers enregistrements de chansons, de musique, Cléa Vincent?
J'ai fait des études très généralistes. J'ai été jusqu'à la licence d'économie-gestion à Nanterre Université. Bon, en me demandant un petit peu ce que je faisais là, et à la fois, il y avait des aspects de l'économie qui m'intéressaient, donc j'ai continué. Et aujourd'hui, ce bagage, je pense, me sert à structurer peut-être ma pensée, ma façon de m'organiser. Enfin, c'est sûr que j'en ai gardé des choses positives, même si aujourd'hui, je travaille pas à la banque.
Comment on vit aujourd'hui quand on est chanteuse, chanteuse en développement, comme disaient les maisons de disques à l'époque où elles avaient le pouvoir d'imposer leur vocabulaire, Cléa Vincent, comment on peut se lancer dans la chanson? C'est quoi votre vie quotidienne d'intermittente du spectacle?
Eh bien, on tourne, je dis on parce qu'on est plusieurs sur scène, on tourne quand
même
beaucoup.
Vous êtes combien d'ailleurs?
On est quatre sur scène. Mmh. On a énormément tourné avec Retiens mon désir, le premier album qui a donné lieu à environ 150 concerts en 2 ans. Donc ça, c'est une belle source de revenus quand même. J'espère qu'on en aura au moins autant pour Nuit sans sommeil. Il y a ça, et puis ben évidemment le fait d'écrire la musique. Et par exemple, quand on a un passage sur France Culture, ben, on a un petit revenu qui est lié à une diffusion. Ça aussi, ça peut rapporter des sous. Donc cumuler les concerts plus les droits d'auteur, ben, ça fait qu'on vit correctement et qu'on peut continuer à faire ça. Je rappelle qu'en France, on a le statut aussi d'intermittent qui permet de soutenir les artistes. Et c'est vraiment un système qui marche très très bien. Il faut être extrêmement travailleur et courageux pour obtenir ce statut. Parce que parfois, on a tendance à penser que les intermittents sont flemmards ou je sais pas quoi. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que pour obtenir ce statut, il faut travailler énormément. Il faut faire minimum 50 concerts en 10 mois et c'est beaucoup. Pour dire qu'aussi, il y a ce soutien de l'État français envers les artistes, qui est important.
Alors Cléa Vincent, j'ai écouté vos chansons sur France Inter, j'ai vu que Les Inrecuptibles, par exemple, vous consacrez de longues pages à chaque fois que vous sortez un disque, mais j'ai cru aussi voir dans votre dossier de presse des articles qui venaient de toutes les régions de France. Le piège à éviter, c'est d'être cataloguée chanteuse pop parisienne?
Bah, j'ai toujours eu à cœur, depuis mes tout débuts, d'aller le plus possible en province. Parce que cette idée de diffuser mes chansons, de faire découvrir mon répertoire et surtout de jouer dans des petits lieux pour acquérir un public de proximité. Et aujourd'hui, d'avoir été autant jouer en province dans les petits lieux, ça fait que oui, ça, le public grandit, pas que à Paris. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais vachement important, mais même ne serait-ce que pour moi, d'aller visiter le reste de la France avec sa musique, c'est quand même génial, parce que la France, c'est un pays magnifique. Donc j'ai découvert plein de villes grâce à ça, au fait d'avoir tourné en France, y compris dans des tout petits lieux.
Pour répondre à la question, la première question de notre première rencontre, Cléa Vincent, c'est quoi la nouvelle pop française?
La nouvelle pop française est très, je dirais, spontanée. Sincère et relativement romantique. Et surtout, ça chante en français, alors qu'on avait arrêté de chanter en français depuis quelques temps. Je crois que c'est très nouveau, ça, de rechanter en français dans un style...
Forcément électro.
Chacun a un peu son style. Juliette Armanet, c'est plutôt disco. Angèle, c'est plus urbain, hip-hop... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fishback, c'est plus énervé, plus bruitiste, plus 80. Et moi, aujourd'hui, c'est plus house music, paradis aussi. Donc, on a tous un peu nos styles, mais on raconte la même chose, à peu près. L'amour qui va, qui vient, les angoisses.
Avec la même référence aux années 80?
Pour Angèle, je dirais que c'est plus 90-2000 parce qu'elle est plus jeune que nous. En revanche, Fishback, Armanet, on a, je crois, les mêmes références.
Ça parle de quoi, Sexe d'un garçon? Ça va être le troisième titre qu'on va écouter de votre album, Cléa Vincent. Ça parle de quoi?
Ça raconte ce que c'est d'être une femme d'une manière générale et que ça encourage, disons. C'est dire que je me sens ni homme ni femme, mais que voilà, c'est pas évident à exprimer, mais en gros c'est l'histoire d'une femme qui monte sur scène et qui a pas peur de montrer qui elle est.
C'est un peu vous, Cléa Vincent.
Voilà.
Merci d'être passé ce matin.
Avec grand plaisir.
Légère et purée, et pourtant c'est un hymne féministe, sexe d'un garçon, extrait du deuxième album de Cléa Vincent, Nuit sans sommeil, qui vient de sortir, et vous pouvez le trouver sous le label Midnight Special Records. On se retrouve demain, comme tous les vendredis, on parle de l'actualité de la bande dessinée, mais demain, sur France Culture, c'est une journée spéciale autour du modèle noir. Vous savez, cette exposition très importante qui s'ouvre au musée d'Orsay, ça sera une occasion pour nous de nous poser la question, de nous poser la fameuse question sur la représentation des noirs dans la bande dessinée américaine, mais aussi dans la bande dessinée franco-belge. Bonne matinée sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la Biennale internationale de design de Saint-Étienne. Qu'est-ce que le design aujourd'hui ? Comment vivre dans une société multigénérationnelle et multiculturelle ? À travers une série d'expositions et d'événements, cette 11e édition dévoile le design comme lien entre les individus et les objets. La Biennale internationale de design à Saint-Étienne, du 21 mars au 22 avril. À retrouver cette semaine sur France Culture, dans les carnets de la création, et ce samedi 23 mars, dans les matins du samedi. Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. À lire dans ce nouveau numéro, « À quoi bon la littérature dans un monde d'images ?» De Christine Angot à Naomi Wallace, plus de 50 écrivains répondent. Un dossier exceptionnel. Au sommaire également, une sélection de 30 romans essentiels pour comprendre notre temps, « La crise sociale » par l'historien Gérard Noiriel, une masterclass avec Griette Satouf et un grand entretien avec Alain Touraine. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les oppositions politiques ont dénoncé en chœur hier soir la gestion de l'ordre public par l'exécutif en France. Débat national organisé sur BFM TV qui a aussi fait la part belle à la fiscalité, vous l'entendrez. Nous reviendrons également sur cette impasse dans l'Union européenne. Le Brexit pourrait être reporté. Bruxelles y consent mais demande aux députés britanniques de s'accorder sur le texte déjà négocié. Et puis nous dresserons le portrait du chef d'état-major des armées en Algérie, proche du président Bouteflika. Il a salué tout de même hier la mobilisation citoyenne, plutôt ambiguë comme réaction. Les chefs de partis politiques étaient donc rassemblés hier soir pour débattre. Représentants de la France Insoumise, du Rassemblement National, du Modem, du Parti Socialiste, du Parti Les Républicains et de La République En Marche, tous alignés sur le plateau de BFM TV pendant 2h30, ils ont présenté leurs solutions pour sortir de la crise des gilets jaunes. Sécurité, chômage, justice sociale et fiscalité. Voici ainsi une proposition d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste.
On a un gouvernement qui a choisi de prendre dans la poche de tout le monde pour financer la transition écologique. Eh bien, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Je veux un impôt sur la fortune vert, c'est-à-dire qui permette de faire en sorte que la transition écologique soit pour partie financée par l'argent que l'on reprend aux grandes fortunes. Ça permettrait, par exemple, de financer une partie d'un grand plan de rénovation thermique, faire en sorte que toutes ces passoires énergétiques soient rénovées. C'est 60% de la facture énergétique qui est réduite par ces travaux d'isolation. Et ça, c'est de l'argent en plus, c'est du pouvoir d'achat en plus. Et ça permet de relier deux questions essentielles, à la fois la question écologique et la question sociale, parce qu'elles sont intimement liées.
Mais la solution n'est pas dans la création de nouveaux impôts. Voilà ce qu'a répondu Stanislas Guérini de La République En Marche.
Je crois que ma proposition, elle est claire. Il faut qu'on continue à baisser les impôts des Français. C'est ce qu'on fait depuis le premier jour de ce quinquennat. Je suis venu avec un document très concret. C'est une feuille de paie d'un salarié qui gagne aujourd'hui 1 783 € par mois. Bien, grâce à la politique de baisse de charges qu'on a menée depuis le début du quinquennat, parce qu'il y a trop de charges qui pèsent sur le travail, ce salarié, il a gagné 400 € net sur une année. Ma proposition, c'est d'aller plus loin. C'est de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français. Bien, je crois que cette mesure, elle serait très attendue par les classes moyennes et elle correspondrait à l'engagement qu'on a eu, c'est de rendre de l'argent aux Français.
Des propos sur BFM TV hier soir, extrait pour nous par Rosalie Lafarge. Nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla. Elle concerne cette fois l'épisode du selfie qui le montrait avec une arme lors de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Alexandre Benalla devra aussi s'expliquer sur des violences volontaires en réunion en marge du défilé du 1er mai dernier à Paris. Notons ce matin que le Sénat décidera de saisir ou non la justice dans cette affaire et d'inculper ou non trois hauts responsables de la présidence. Quatre associations accusées de faire la promotion du djihad armé vont être dissoutes en France. Le ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner, l'annonçait hier. Les structures en question sont basées dans le Nord, à Grande-Synthe. L'une d'elles est le centre Zara France. Elle est proche du pouvoir iranien, du Hamas et du Hezbollah. Elle va, c'est sûr, perdre en influence. C'est ce qu'estime le chercheur et consultant sur les questions islamistes, Romain Caillet.
Interdire des associations, ça limite leur capacité à avoir une présence dans l'espace public. Dans le cas spécifiquement du centre Zahra, le fait qu'ils soient chiites, déjà, ça les coupe d'une grosse partie de la communauté musulmane. Ce qui leur permet de recruter, c'est justement leur présence dans l'espace public, d'apparente comme le fer de lance de la lutte antisioniste, et un certain nombre de jeunes qui connaissent pas le Hezbollah, qui n'ont pas de sympathie particulière pour le régime iranien, vont par sympathie pour la cause palestinienne, pouvoir rejoindre ce genre de mouvement sectaire par la suite. C'est pas comme les salafistes qui sont présents dans toutes les mosquées, plus ou moins en France, de manière diffuse. Dans toutes les mosquées, il y a toujours un salafiste dans un coin ou quelque chose, parce que c'est des lieux de culte pour sunnites. Là, le fait que ce soit des chiites, ils fréquentent pas les mêmes lieux de culte que les sunnites. Un musulman moyen en France, il a relativement peu de probabilité de se retrouver à entendre un discours pro-iranien, si ce n'est via le cadre des activités politiques qui sont menées dans l'espace public par le centre Zahra.
Romain Caillet interrogé par Maxime Fayol. Les sages du Conseil constitutionnel doivent dire aujourd'hui si les tests osseux sur les jeunes migrants sont constitutionnels. Des tests controversés pour déterminer si les migrants sont mineurs ou majeurs. Un bref report du Brexit est possible, à condition que les députés britanniques approuvent l'accord de retrait négocié entre Theresa May et Bruxelles. Voilà ce qu'a répondu Donald Tusk, le président du Conseil européen. Donald Tusk, voilà ce qu'il a répondu à la première ministre britannique hier. Elle a officiellement demandé hier un report de 3 mois du Brexit jusqu'au 3 juin. Si aucun accord n'est trouvé, va-t-on vers un Brexit dur ? Sylvain Kahn, géographe et professeur à Sciences Po, n'y croit pas. Selon lui, Bruxelles non plus. Il s'explique au micro d'Audrey Dumas.
D'abord, il y a 48% des citoyens britanniques qui avaient voté à l'époque contre le Brexit. Et ceux-là, dans leur ensemble, sont plutôt pour un Brexit doux, un Brexit soft, un Brexit encadré. Et donc l'Union européenne sait très bien qu'elle peut s'appuyer, si j'ose dire, sur ces personnes-là. Et par ailleurs, il y a une minorité, certes, mais une forte minorité au sein du Parlement britannique qui est pour cet accord. Donc en réalité, on voit aujourd'hui une espèce d'alliance tactique entre l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 plus la Commission et le Parlement, le gouvernement de Madame May et une minorité, une grosse minorité du Parlement britannique pour faire en sorte que finalement cet accord puisse être accepté. Donc dans ce cadre, l'Union européenne peut tactiquement dire on est prêt à accorder un délai supplémentaire à Madame May à la condition que vous nous donniez des certitudes, des garanties sur le fait que vous allez bien finir par voter ou faire ratifier en l'occurrence cet accord.
Le bras de fer continue donc alors que débute ce jeudi un Conseil européen qui sera évidemment dominé par la question du Brexit. Quand le parti au pouvoir et l'armée courtisent les manifestants, cela se passe en Algérie. Un dirigeant du Front de Libération Nationale, le FLN, et le chef d'état-major de l'armée, tous les deux ont salué hier les manifestants qui défilent depuis près d'un mois pour exiger un changement au pouvoir, donc le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Le chef d'état-major est le général Ahmed Gaïd Salah, l'un des fidèles du président Bouteflika. Il a donc pourtant salué les intentions pures du peuple algérien hier. À quel jeu joue ce militaire bourru ? Son portrait est signé ce matin Christian Chesneau.
Ahmed Gaïd Salah est un pur produit du sérail politico-militaire qui dirige l'Algérie depuis l'indépendance. Originaire d'un village des Aurès, il s'engage dès l'âge de 17 ans dans les maquis du FLN. Formé dans une école d'artillerie soviétique, il va grimper tous les échelons de la hiérarchie militaire. Commandant des forces terrestres en 1994, il se retrouve plongé au cœur de la guerre contre les islamistes. En 2004, il profite de la mise à l'écart du chef d'état-major Mohamed Lamari, hostile à la réélection d'Abdelaziz Bouteflika, pour atteindre le sommet de l'armée et ne plus le quitter. Depuis, il navigue dans le sillage du président. « Je serai au service du Moudjahid Bouteflika jusqu'à la mort », aime-t-il à répéter. Ce n'est pas une personnalité charismatique, c'est un homme autoritaire qui aime les longs discours. Il n'est pas là pour se faire apprécier de la population, nous confie un observateur local. Amateur de bonne chair et gros fumeur, Ahmed Gaïd Salah est réputé et craint pour ses terribles colères. Tout au long de sa longue carrière, au cœur de l'état profond algérien, il a eu tout loisir de placer ses hommes de confiance et d'éliminer ceux qui lui faisaient de l'ombre. Alors que son mentor, Abdelaziz Bouteflika, s'accroche désespérément au pouvoir, le vieux général âgé de 79 ans a aujourd'hui la lourde tâche de gérer une transition politique à haut risque.
Partons maintenant au Gabon, où l'exemple algérien pourrait faire des émules. Car au Gabon aussi, le chef de l'État, Ali Bongo, a été victime d'un AVC en octobre dernier. Depuis, un collectif citoyen s'est créé et il donne jusqu'à la fin du mois aux autorités pour reconnaître la vacance du pouvoir, Valérie Crova.
Appel à agir, c'est le nom de ce collectif de 10 personnalités. Son but, dénoncer ce qu'elles estiment être une imposture. La Cour constitutionnelle a en effet utilisé un artifice en ajoutant un alinéa au texte de la Constitution qui crée la notion d'indisponibilité temporaire, sans préciser la durée. Début janvier, une poignée de militaires a tenté de profiter du vide au sommet de l'État gabonais. Le putsch a tourné court, mais l'absence d'Ali Bongo continue d'alimenter les rumeurs sur ceux qui gouvernent réellement ce petit pays d'Afrique centrale. Jean-Gaspard Toutoumaï est l'un des signataires de cet appel à agir.
La présidente de la République aujourd'hui a un titulaire qui ne remplit plus les charges de la fonction. Les conseils des ministres ne se tiennent plus. Tous les actes du président de la République ne sont plus posés depuis le mois d'octobre dernier. Nous avons eu la sagesse de donner un mois aux institutions pour se ressaisir. Un mois, c'est suffisant. pour que le Premier ministre ou le Parlement puisse saisir la Cour constitutionnelle pour que cette dernière constate la vacance de la présidence de la République.
Le collectif a posé la date du 31 mars comme ultimatum. Si d'ici là, rien n'est fait, les signataires qui espèrent rallier une majorité de Gabonais n'excluent pas de prendre la rue. Le gouvernement a quant à lui mis en garde contre les appels à la désobéissance civile et à la rébellion.
La météo, ce jeudi en France, c'est assez simple, du soleil pour tout le monde. Quelques nuages près de la Manche, comptez 10 à 15 degrés ce matin, 14 à 18 cet après-midi. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Coquerel.
Vous nous rejoignez pour votre journal des idées. Jacques, le blocage de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne où a eu lieu l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé et sa compagne, c'était au début du mois. Ce blocage a été levé après deux semaines de grève du personnel pénitentiaire.
Oui, le personnel qui a obtenu donc des garanties sur la sécurité, notamment la dotation de matériel spécifique ou encore un renfort de personnel, selon Emmanuel Guimaraes, délégué FO pénitentiaire, qui précise cependant que la reprise ne sera effective que dans plusieurs jours, le temps qu'une fouille générale de l'établissement soit réalisée pour le sécuriser. L'OIP, l'Observatoire international des prisons, avait publié un communiqué alarmant sur les conditions de vie gravement dégradées des détenus confinés 24 heures sur 24 dans leurs cellules. Plus de promenades, ni de cantines, tabac ou autres, et surtout plus de parloirs. Le dernier numéro de la revue de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, donc la revue Dedans Dehors, porte justement sur l'impact de l'incarcération sur les proches, le maintien des liens familiaux, condition fondamentale de la réinsertion des personnes placées sous main de justice et de la prévention de la récidive, est une des principales missions de l'administration pénitentiaire, affirme le ministère de la Justice, et pourtant ce droit fondamental est quotidiennement malmené, souligne l'édito. Dans cette livraison, un article évoque une affaire où un détenu mis en cause pour avoir participé à une action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement avait demandé à visionner les images de vidéosurveillance pour apporter la preuve de sa bonne foi, ce qui lui avait été refusé. Le tribunal administratif avait du coup annulé la sanction disciplinaire au motif que les droits de la défense ont été méconnus. Une décision conforme à la jurisprudence du Conseil d'État du 25 juillet 2016. Qui estime que le visionnage des enregistrements de vidéosurveillance relève du principe constitutionnel de respect des droits de la défense. La transparence et la publicité des débats, les magistrats n'y sont pas, en général, opposés, car elle apporte une légitimité supplémentaire aux décisions de justice et surtout, elle éclaire les justiciables sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. Mediapart a entrepris de diffuser une série de podcasts enregistrés au cours des audiences, une pratique longtemps écartée pour éviter une forme délétère de justice spectacle. Pascal Pascariello rappelle que Robert Badinter avait levé l'interdiction à l'occasion du procès de Klaus Barbie par une loi de 1985 qui autorisait l'enregistrement sonore ou visuel de certains débats présentant un intérêt pour la constitution d'archives historiques pour la justice. Mais la justice du quotidien restait à l'écart de cette exception. Quel sens y a-t-il à autoriser des comptes rendus d'audience en temps réel, nécessairement partiels, et à interdire un compte rendu enregistré, exhaustif et objectif, demande la journaliste. D'autres entorses ont progressivement établi le droit à la transparence des débats. En septembre 2003, le ministère de la Justice s'oppose à la diffusion de l'appel aux assises, un documentaire de Joël Loncol sur le procès d'un homme condamné à 10 ans de prison pour le meurtre de l'amant de sa femme. Finalement autorisé par le garde des Sceaux face au tollé provoqué par cette censure, Dominique Perben demande dans la foulée un rapport à la magistrate Elisabeth Linden, concluant à l'avantage de placer le juge et le justiciable sous le regard médiatique dans un rapport moins inégalitaire, un souci de transparence qui participe de la nature même de la démocratie. Les syndicats sont plutôt favorables. Anne-Sophie Valache, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, souhaite que les audiences publiques soient enregistrées dans un souci de transparence et à des fins pédagogiques, dit-elle, comme on peut l'entendre dans les extraits annonçant la diffusion des podcasts de Mediapart. L'angoisse de certains prévenus est d'autant plus grande qu'ils méconnaissent le système judiciaire. Alain Fogelweit, magistrat et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, était chargé des requêtes déposé à l'encontre des magistrats. Il regrette que les justiciables qui déposent une plainte auprès du Conseil supérieur de la magistrature concernant les propos, par exemple, discriminatoires d'un magistrat, n'en aient pas la preuve, si ce n'est une attestation de leur avocat. Le premier volet de cette série de podcasts se passe donc au tribunal pour enfants de Nanterre. Délibéré, la revue du syndicat de la magistrature consacre le dossier de son dernier numéro aux relations entre jeu et droit. Le concept de jeu a souvent été employé pour décrire le rituel judiciaire, rappelle le philosophe Christophe Béal. Il illustre la décision judiciaire ni totalement prévisible, elle ne se déduit pas mécaniquement des lois, ni tout à fait arbitraire. Le juge doit tenir compte de l'ensemble des normes. Ainsi, le jeu est l'espace paradoxal où la liberté rencontre les règles. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, direction l'Afghanistan où il est question des talibans.
Oui, c'est ça, avec cette alternative, la liberté ou la paix alternative dans laquelle pourrait être placée la population en cas de retour des talibans au pouvoir, alors que ceux-ci négocient depuis 2 mois avec les États-Unis. Les États-Unis négocient leur retrait avec les talibans. Les talibans négocient aussi avec la Russie. C'est sûr que cette annonce de retrait a perturbé le jeu afghan, au point peut-être d'écarter Kaboul et de favoriser les talibans. On voit ça avec vous, Gilles de Ronceau. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, auteur de la révolution afghane chez Kartala. Alors, ce qu'on apprend aujourd'hui aussi, en fait, hier, c'est que l'élection présidentielle qui devait avoir lieu, dans un mois exactement, a été reportée pour la deuxième fois, reportée en juillet, puis finalement reportée en septembre. Selon la commission électorale, pour mieux appliquer la loi électorale, donc des raisons administratives et techniques. Qu'est-ce que vous en pensez de ce report? Ce sont des raisons valables, hein, la transparence et l'enregistrement, dit la commission électorale, ou bien des craintes des violences, comme on sait qu'elles ont lieu à chaque fois?
Alors, non, le scrutin ne sera pas mieux organisé si on le fait en septembre ou en octobre. Il y aura autant de fraude, c'est-à-dire les fraudes seront probablement massives si le scrutin a lieu. Il me semble que les Américains ont fait pression sur le gouvernement afghan pour repousser la date des présidentielles parce que ça interférait trop nettement avec le processus de négociation entre les Américains et les talibans. Voilà. En plus, le mois de juillet, c'est un mois où il y a normalement des activités militaires extrêmement fortes. Et donc, vu la dégradation de la situation militaire, il est peu probable que, disons, au minimum, il y a une dizaine de provinces où les élections n'auraient pas pu avoir lieu.
Et alors qu'on parle justement de la situation militaire de terrain, le week-end dernier encore, il y a eu une importante attaque des talibans dans le nord-ouest vers le Turkménistan. C'est le district de Badghis avec 58 soldats afghans qui auraient fui de l'autre côté de la frontière, 58 autres qui auraient été pris en otage. On dit encore que l'emprise du gouvernement de Kaboul sur le territoire a diminué. Je crois que c'était 53% les derniers chiffres, c'est à peu près ça?
Alors, tout dépend comment on calcule. Est-ce qu'on calcule une présence taliban ou un contrôle taliban du terrain total? Ce qui est important, c'est que, quel que soit le mode de calcul, on a une diminution de la présence du gouvernement de Kaboul dans les provinces. Et dans le cas du nord-ouest, dans la province de Badghis, Faryab, on a un véritable effondrement du système de sécurité gouvernementale.
Oui, et alors l'autre donnée qu'on a eue également, ce sont les chiffres du coût militaire qui étaient assez passés sous silence ces dernières années. Il y a eu des premiers chiffres l'année dernière qui parlaient de 28 000 soldats afghans tués depuis 2015 à peu près. Et puis là, à Davos, Ashraf Ghani a parlé de 45 000 soldats afghans tués en 4 ans. Ça fait à peu près 11 250 par an. C'est une situation qui semble intenable en fait pour le gouvernement afghan.
Assez profondément intenable, et on a vu l'an dernier la chute d'une ville importante comme celle de Razni, puis il y avait eu avant la chute de Kunduz, Lashkarga, etc. Donc on voit qu'on est à un point de rupture. Les Américains peuvent, avec l'intensité des bombardements, puisque les Américains bombardent énormément en Afghanistan, peut-être maintenir encore le régime en place pendant quelques mois, quelques années, mais on est à une fin de jeu en Afghanistan. Ça n'est pas tenable sur 5 ans.
Et alors, pour terminer sur, disons, la puissance du gouvernement de Kaboul aujourd'hui, on est donc entre deux élections, en fait, puisque les dernières, les législatives, ont eu lieu le 20 octobre, que la présidentielle, donc encore reportée, aura peut-être lieu en septembre. Est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, on n'a toujours pas les résultats des législatives d'octobre, je crois, qu'il y a un processus institutionnel qui est complètement virtuel ou impossible aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, les élections ne peuvent plus servir à stabiliser la situation. Les élections ne donnent plus de crédit politique à ceux qui sont élus. Tout ça, finalement, s'est profondément dégradé en 2014, lors des dernières présidentielles, où il n'y a pas eu de résultat officiel, puisque c'est les Américains qui ont organisé un compromis politique entre les deux candidats du second tour. Donc, on est sorti en Afghanistan des processus constitutionnels classiques.
Oui, et alors, pour revenir à cette annonce d'élection reportée, est-ce qu'il n'y a pas l'hypothèse quand même qu'elles aient été reportées précisément pour donner le temps, pour permettre un accord de paix finalement, puisque les négociations continuent toujours d'une part avec les États-Unis, avec la Russie, en Russie en tout cas, on va en reparler aussi, et qu'il y a également un processus national qui devait être, je crois, enclenché depuis dimanche dernier, ce qu'on appelle une Loya Jirga, une conférence nationale, un peu comme en 2001, après l'invasion américaine, elle avait eu lieu.
Alors, oui, mais pour qu'on ait un véritable processus inter-afghan, puisque c'est ce qui manque aujourd'hui, il y a des négociations entre les talibans et les Américains depuis l'été dernier, donc ça c'est un processus qui est enclenché. Maintenant, il faudra un processus de réconciliation entre Afghans, et là pour le moment on est très en retard, puisque le gouvernement de Kaboul n'a pas été associé aux négociations entre les Américains et les talibans, le gouvernement de Kaboul est extrêmement faible, avec peu de légitimité politique, donc comment essayer de recréer un processus inter-afghan. Et là, ce qu'on appelle des Loya Jirga, ça peut être aussi des assemblées constituantes, ça dépend un peu du contexte. Pour le moment, ça n'est pas suffisant. Et surtout, il faudrait ouvrir le processus, l'internationaliser, faire en sorte aussi que certains groupes qui vont payer l'addition fondamentalement, je pense notamment à tous les groupes, toutes les associations qui peuvent représenter des femmes et aussi des minorités, tous ces gens-là soient associés au processus. Pour le moment, on en est encore très loin.
Et alors, pour ce qui est des pourparlers directs entre États-Unis et talibans, donc là, il n'est pas question de femmes, c'est uniquement le bureau politique des talibans et puis l'émissaire américain Zalmay Khalilzad. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a une certaine hâte qui a été officiellement déclarée, puisque je crois que Khalilzad disait vouloir conclure dans les 5 mois. Mais il y a également certaines avancées qui auraient été obtenues. Il y a 4 points qui ont été évoqués: contre-terrorisme, retrait des troupes américaines, dialogue inter-afghan, cessez-le-feu. Au moins sur les 2 premiers points, ce qu'on appelle contre-terrorisme et retrait des troupes américaines, il paraît qu'il y a une ébauche d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire surtout que les Américains ont touché. Parce qu'en fait, à partir du moment où les Américains partent d'Afghanistan, ils n'auront plus véritablement les moyens de contrôler quoi que ce soit. Donc les talibans sont en position de force, ils le savent, et les Américains sont obligés de se fier à la parole des talibans. Or, il y a aujourd'hui 2 groupes qui posent problème, c'est l'État islamique et Al-Qaïda. L'État islamique, oui, les talibans sont crédibles quand ils parlent de combattre l'État islamique, parce qu'ils le font tous les jours. Pour ce qui est d'Al-Qaïda, les relations entre Al-Qaïda et les talibans sont extrêmement complexes. Honnêtement, personne ne sait exactement ce qui se passe. Et je vois mal comment les Américains vont pouvoir s'assurer de garanties suffisantes sur ce plan-là. Donc on est véritablement devant un pari des Américains qui, de toute façon, parce qu'il y a des présidentielles aux États-Unis bientôt et qu'ils sont déjà en pré-campagne électorale, veulent absolument sortir d'Afghanistan. Ça a toujours été la ligne de Trump. Et c'est d'ailleurs très consensuel dans la classe politique américaine.
Oui, Donald Trump qui avait annoncé le 21 décembre vouloir retirer la moitié des 14 000 soldats américains qui sont présents. Alors est-ce que ça veut dire que, en gros, contre une sanctuarisation, disons, antiterroriste et anti-Daesh, hein, les talibans pourraient avoir le champ libre, enfin les Américains pourraient laisser le champ libre aux talibans, c'est un peu ça ?
Ce serait ça. Si tout se passe bien, les talibans rempliront leur partie du contrat, hein, moyennant peut-être de l'aide économique. Il faut voir que les talibans sont déjà des interlocuteurs de sécurité importants pour les Iraniens, pour les Russes. Les Russes financent, arment les talibans, donc là on a véritablement un processus d'intégration des talibans comme acteurs régionaux. Ceci dit, encore une fois, on n'a pas beaucoup aujourd'hui de moyens de pression sur les talibans. Donc on a véritablement un problème de sécurité qui n'est pas résolu.
Oui. Et précisément, de ces pourparlers qui sont qui ont commencé parallèlement à Moscou, au Grand Hôtel de Moscou, entre une autre partie de la délégation taliban, là il y avait deux femmes également, dont la fameuse députée Fawzia Kofi. Qu'est-ce qu'il faudrait attendre de ces pourparlers-là ? Pour le coup, la Kaboul est d'accord pour y participer, non ?
De toute façon, là, aujourd'hui, il se passe rien à Kaboul, en fait. C'est d'abord un signal envoyé aux Américains, d'abord une humiliation, parce qu'il y a une dimension psychologique, hein. Les Russes veulent faire subir une humiliation aux Américains, et de ce point de vue-là, ils sont en train d'y arriver. Maintenant, les Russes ne contrôlent pas suffisamment de ressources en Afghanistan, ils ne contrôlent pas suffisamment de groupes politiques pour qu'ils aient une influence sur la négociation. Moscou, c'est profondément une diversion. Hein. Les vrais acteurs lourds dans ce dossier, c'est les Américains, les Pakistanais, voilà, et les talibans au milieu. C'est là que se joue la situation. C'est fondamentalement, c'est pas à Moscou que ça va se régler.
Oui. Et puis restera à savoir ce qu'en pensera la population afghane. Est-ce qu'elle sera prête à accepter un retour des talibans contre la fin du conflit ? Mais on aura l'occasion d'en reparler avec vous. En tout cas, merci pour vos explications ce matin, Gilles Doron-Soro. Je rappelle, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne, et membre senior de l'Institut universitaire de France. Merci. Bonne journée.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
À l'occasion de l'exposition événement au musée d'Orsay, Le Modèle Noir, en partenariat avec France Culture, journée spéciale ce vendredi sur notre antenne. Entre histoire de l'art et histoire des idées, France Culture se penche sur les problématiques esthétiques, politiques, sociales et raciales. Et sur l'imaginaire que révèle la représentation des figures noires dans les arts visuels, du cinéma à la BD, la littérature ou la musique. Journée spéciale, Le Modèle Noir, ce vendredi sur France Culture dès 6h. Plus d'infos, franceculture.fr.
L'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par la chef d'orchestre finlandaise Susanna Malki avec le pianiste Roger Muraro, propose « La tour en Galila symphonie » d'Olivier Messiaen. Chanson d'amour, hymne de joie, mouvement, vie et mort, un déferlement de couleurs et de rythmes. Le vendredi 29 mars à 20h à l'auditorium de Radio France. Réservation maisondelaradio.fr.
À 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins avec Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Mais bonjour Xavier Martinet.
Et ce matin, vous criez « Haro sur l'ararisme ».
Ah, vous vous êtes entraîné, hein. C'est pratiquement aussi compliqué à dire que la désarafatisation. Désarafatisation, vous ne voulez pas le dire. Hein. « Haro sur l'ararisme » sur Yuval Noah Harari, penseur israélien, auteur de 3 best-sellers mondiaux. On voit assez peu d'équivalent à un tel succès de librairie. Alors, il était normal, Xavier, que cela déclenche un retour de bâton. Ben, c'est chose faite. Ça se lit par exemple dans un dossier publié par Libération aujourd'hui. Alors dans ce procès, on lui reproche beaucoup de choses à Harari, mais notamment il est dépeint comme la figure de proue des néolibéraux. Disons que dans un jeu à 3, il y aurait des penseurs populistes, des penseurs socialistes et des libéraux. Harari lutterait pour le troisième camp et ses héros du moment, les patrons de la Silicon Valley, qui seraient en quelque sorte les symboles de l'idéologie d'Harari. Alors c'est paradoxal parce que Harari est plutôt critique vis-à-vis de l'évolution technophile du monde. Il a même été lu en France comme un anti-moderne à tendance technophobe. Mais dans le même temps, Harari professe, et c'est ce qui lui est reproché, un individualisme farouche. Il explique depuis son livre « Sapiens » que l'homme a été chassé du jardin d'Éden lorsqu'il a cessé d'être un chasseur-cueilleur et qu'il doit aujourd'hui se retrouver au travers de la méditation. Bref, les activités collectives, protestations collectives, les mouvements politiques, ça n'est pas trop le genre d'Harari. Pourtant, Harari est représentatif d'un autre phénomène finalement beaucoup plus surprenant et probablement plus profond que la déification de Google. Harari signe le retour de deux ismes, le scientisme et le darwinisme social. Sous couvert de spiritualité, sa vision de l'être humain est finalement très mécanique, très inspirée des sciences cognitives, comme si finalement l'être humain était la conséquence de ses neurones, de ses synapses, comme si l'individu se résumait à une somme de réactions biochimiques. Je ne vois pas de définition plus pure du scientisme, moins spiritualiste que celle-ci. Mais surtout, le néo-darwinisme qui était mort et enterré en sciences sociales, je dis bien en sciences sociales, hein, pas du tout en biologie, est aujourd'hui largement dominant. Une manière de considérer que l'être humain se résume à l'histoire de son évolution biologique, croire qu'en adorant le dieu des sciences, on va pouvoir se débarrasser de la science des dieux.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et aujourd'hui, dans les matins, une invitée exceptionnelle, une icône du féminisme, Gloria Steinem, l'une de celles qui a pesé de toute son image sur le féminisme américain. C'est elle qui a lutté pour la promotion du droit des femmes depuis de nombreuses années. Elle sera dans les matins et elle sera rejointe par une autre figure importante du féminisme, la journaliste et essayiste Mona Chollet. En attendant, il est 7h sur France Culture.